Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, déclarée comme telle par l'Organisation des Nations Unies en 1977. Ce sera pour nous aujourd'hui l'occasion de discuter avec deux invités d'un sujet tristement d'actualité, l'essor des violences numériques à l'égard des femmes. Avec moi en studio, Sigolène Couchot-Chiex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Cergy-Paris, au sein du laboratoire École Mutation Apprentissage. Vous êtes notamment spécialisé sur les questions de socialisation de la jeunesse et rapports sociaux de genre, ainsi que sur le sexisme et cybersexisme.
Absolument.
Et à distance, Laura Pereira Diogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de l'association Stop Ficha, coautrice de l'ouvrage Combattre le sexisme. Vous avez notamment participé à diverses médiatisations sur les questions de cyberviolence. Et vous êtes aussi étudiante en master études de genre aux universités de l'Ouest. Merci à toutes deux d'avoir accepté cette invitation.
Je suis une princesse, moi aussi.
Attends, quoi?
Oui, la princesse Vanellope von Schwitz de Sugar Rush von Schwitz. Vous devez savoir qui je suis, ce serait embarrassant pour vous si vous ignoriez ça.
Ah, et quel genre de princesse es-tu?
Quel genre?
Ta chevelure est magique?
Non.
Tes mains sont magiques?
Non.
Tu parles avec les animaux?
Non.
On t'a empoisonné?
Non.
Ensorcelé?
Non.
Enlevé ou séquestré?
Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police?
Ou alors tu as conclu un pacte avec une sorcière de la mer qui t'a pris ta voix en échange d'une paire de jambes humaines?
Non, quelle horreur qui ferait une chose pareille!
Tu as déjà reçu un vrai baiser d'amour?
Ah, berg, jamais!
Des conflits avec ton père?
J'ai même pas de maman!
Nous non plus!
Et maintenant, la question à 1 million. Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a débarqué?
Ouais! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça?
C'est vraiment une princesse!
C'est sur cet extrait du film d'animation Ralph 2.0, et avec un peu de légèreté malgré tout, que nous débutons cette émission, sur un sujet pourtant ô combien sérieux. Être une femme, aujourd'hui, dans une société numérique, c'est aussi être particulièrement exposée à cet environnement dont les risques sont multiples. Et l'actualité cinématographique de ces dernières semaines aurait aussi pu, d'une certaine façon, en être la preuve. La nouvelle série française Nudes, diffusée depuis le 1er février, mettant en scène l'histoire de trois adolescents, auteurs et victimes d'un partage de photos ou vidéos dénudées sur Internet. Comme le rappelait en novembre dernier l'Organisation des Nations Unies, malgré leur potentiel énorme, les technologies, les outils numériques et Internet entretiennent et décuplent les disparités entre les genres et soumettent les femmes et les filles à de nouvelles formes d'oppression. Violence par le biais de l'utilisation d'un smartphone, de plateformes de réseaux sociaux, d'appareils numériques et pour certains dotés même d'intelligence artificielle désormais, ces violences touchent leurs victimes à tous les stades de la vie. En 2015 déjà, l'ONU estimait que 73% des femmes dans le monde étaient exposées à de la violence sur Internet, notamment le harcèlement. En 2021, à l'issue de la pandémie de Covid-19, ce chiffre serait passé à plus de 85% selon une étude de The Economist Intelligence Unit, et la situation est incontestablement en augmentation depuis. Ainsi, au niveau du Conseil de l'Europe, dans le cadre de l'application de la Convention dite d'Istanbul dédiée à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, un groupe d'experts, baptisé le Grevio, a décidé en octobre 2021 de dédier sa première recommandation à la dimension numérique de cette violence, rappelant ainsi à quel point le problème est devenu mondial et emporte de graves conséquences. 2 ans plus tard, en 2023, le 11 octobre dernier donc, ce même groupe d'experts et plus largement la plateforme des mécanismes d'experts indépendants sur la discrimination et la violence à l'égard des femmes dont il fait partie a publié une déclaration commune pour la Journée internationale de la fille, déclaration appelant à des espaces numériques sûrs et inclusifs, exempts de violence et de harcèlement en ligne, afin que le potentiel, le bien-être et la prospérité des filles puissent être atteints. Dès lors, du chemin a certes déjà été parcouru pour lutter contre cette violence numérique particulièrement genrée, mais la route est et sera encore longue. Nous sommes donc à cet égard heureux de la poursuivre avec nos invités dans un instant.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles.
c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi. Je dirai ça t'apprendra. Je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Ça te jouera un mauvais tour. Avec un cœur innocent, tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Tout ce que je te dis là.
Mise en garde symbolique de France Gall dans cette chanson de 1964, qui sera d'ailleurs reprise pour incarner la bande originale du célèbre film Boulevard de la Mort de Tarantino, sorti en 2007. Mais avec vous, Ségolène Couchot-Chiex, Laura Pereira-Diogo, on ne laissera pas tomber les filles aujourd'hui. Je vous propose, pour commencer cet échange, de distinguer peut-être les pratiques dont on va parler, ces pratiques relevant de ces violences en ligne, dont les femmes sont particulièrement victimes. On peut distinguer plusieurs types, plusieurs catégories de violences en ligne, parfois exclusivement en ligne, parfois simplement facilitées par la technologie. Je m'adresse à vous, Laura Pereira-Diogo. Pouvez-vous peut-être reprendre ces distinctions et ce qu'on trouve au sein de ces violences ?
Eh bien, en fait, ce qu'on constate, c'est que ces violences, elles sont nourries toutes par les mêmes fondements de discrimination. Donc là, on parle particulièrement du sexisme, mais qui peut également se croiser avec le racisme, le validisme, etc. Et en fait, comment on catégorise ces violences ? Eh bien, à mon sens, la théorie du contrôle coercitif est la mieux placée pour réussir à prendre en compte un maximum de diversité aussi de ces violences, donc en ligne, qui peuvent passer par les mots, par les images, aussi par l'utilisation d'outils. Donc ça peut même être l'utilisation de la domotique pour par exemple séquestrer quelqu'un dans sa propre maison avec ses nouveaux outils de contrôle à distance de sa maison ici. Et ça peut même être donc utiliser d'autres outils numériques autres que le téléphone. Il ne faut pas se cantonner que aussi aux formes de violence, cyberviolence qui peuvent se passer par le téléphone. Il y a aussi tous les autres types d'outils et les deux peuvent se mélanger également, des violences qui peuvent être filmées et ensuite diffusées sur le numérique. On est vraiment au croisement et des violences et des cyberviolences de genre.
D'accord. Alors, on va essayer de reprendre, d'ailleurs, dans le cadre de nos échanges, ces distinctions de support, comme vous l'énoncez, d'outils aussi qui peuvent occasionner la violence, en ayant peut-être à l'esprit que certaines sont simplement, entre guillemets, facilitées par l'usage de l'outil, d'autres sont amplifiées et d'autres sont tout simplement générées par lui. Vous évoquez les images, on en reparlera. Avant d'isoler ces phénomènes, on peut peut-être insister déjà sur un point qui est le fait de dire que le législateur pénal incrimine un certain nombre de distinctions parmi celles que vous avez reprises, mais en soi, a priori, il n'y a pas de distinction faite à l'égard du sexe. Les distinctions au sein des infractions ne classent pas, en fait, selon le profil de la victime, en tout cas pas nécessairement. Mais pour autant, je crois que vous avez donc beaucoup travaillé sur la question, Ségolène Couchot-Chiex, on observe un phénomène hautement genré dans ces phénomènes. Est-ce que vous pourriez reprendre cet aspect-là, alors même qu'il n'y a pas donc, de distinction forcément liée au sexe dans ces classifications, en quoi ce phénomène est particulièrement genré?
Ce phénomène est genré parce qu'en fait, les victimations sexistes et homophobes ne sont que les deux versants d'un même système qui va amener à classer les individus, à les amener dans cet espace genré à partir de mécanismes qui sous-tendent ce système de genre, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc, ce qui va se passer du point de vue du sexisme va pouvoir se retrouver donc plutôt ciblant les filles, mais pas seulement, va pouvoir se retrouver aussi avec des victimations à caractère plutôt homophobe ou transphobe aujourd'hui, maintenant, il faut aller également dans ce domaine pour pouvoir ramener les individus à leur place de genre. Et cela se joue dans le phénomène de socialisation, dans le processus de socialisation dès le plus jeune âge. Alors, dans mes études, je m'attache en particulier à ce qui se produit dans les établissements scolaires, les collèges et dernièrement les écoles, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, en interrogeant les jeunes de 12 à 16 ans, c'était pas suffisant. Maintenant, les téléphones portables sont... les enfants, les écoliers et les écolières sont dotés de téléphones portables dès le CM1, le CM2 et voire parfois avant.
On avait effectivement discuté un peu de cette question dans une précédente émission concernant la violence à l'égard de l'enfant, finalement. Au sein des catégories, ou en tout cas des exemples que Laura Pereira-Diogo nous a présentés pour débuter, est-ce que vous diriez que certains phénomènes touchent quand même plus ces jeunes filles, ces petites filles parfois dont vous parlez, plus que d'autres? Je suppose que toutes les cyberviolences et les violences en ligne ne les concernent pas forcément, mais je me trompe peut-être.
Alors oui, c'est d'abord, il faut avoir conscience que l'école, c'est un univers semi-clos. Et donc, à l'intérieur de cet univers semi-clos, les jeunes sont en coprésence tout le temps. Et donc, on ne peut pas isoler complètement ce qui se passe dans l'établissement scolaire et ce qui va continuer, se poursuivre, interagir sur les réseaux sociaux. Et là, je parlerai essentiellement des téléphones portables, des smartphones, donc connectés à Internet. Il faut bien avoir conscience que 72% des élèves, en 45 jours, donc entre le début de l'année scolaire et début novembre, qui sont en général les dates de nos enquêtes, 72% des élèves ont entendu des insultes ou des moqueries à caractère sexiste ou homophobe. Donc c'est quand même énorme. Et la moitié de ces insultes ou de ces moqueries portent sur la tenue vestimentaire genrée ou non genrée et sur le comportement genré ou non genré. Donc on a quand même une base d'un phénomène de genre qui est massif et dans lequel baignent constamment les élèves et qui bien sûr va pouvoir se prolonger ou s'accentuer ou s'aggraver par ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
On reparlera de la question des réseaux sociaux effectivement dans un instant. Je crois que Laura Pereira-Diogo voulait réagir sur cette question.
Oui, puisque en effet, le caractère genré qu'on retrouve notamment dans les cyberviolences, ça va être surtout la question de l'affiche publique ou des cyberviolences plus privées aussi, dans le cadre de conversations privées, et où en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui va être du lynchage public va être maximisé, voire exclusivement, que à l'encontre de jeunes femmes, jeunes filles, personnes sexisées de manière générale, et que donc notamment sur la question des cyberviolences à caractère sexuel, il y a des hommes victimes, mais plus dans des conversations privées en fait. Ça va moins être de l'affichage public sur la place publique du numérique, quoi.
D'accord. Et du point de vue des chiffres, peut-être, pour continuer à prendre la mesure de ces violences, j'imagine que vous avez aussi travaillé sur l'aspect chiffré de ces phénomènes. Laura, est-ce que vous avez d'autres retours dans le cadre donc de cette association dans laquelle vous travaillez ou de rapports peut-être auxquels vous avez contribué?
Eh bien... En effet, donc le chiffre le plus marquant à mon sens, c'est celui du fait que les femmes ont 27 fois plus de chances d'être victimes de cyberviolence. Il y a aussi tout l'aspect chiffré sur plus de, enfin, pardon, une majorité de femmes se sentent obligées de s'auto-censurer, de changer de comportement en ligne. Pour essayer de prévenir des formes de violence qui pourraient subvenir. Donc, on en est là aussi de en fait, s'auto-censurer pour ne pas subir de violence. Et donc tout l'aspect aussi représentatif qui joue un rôle énorme sur la pauvre moitié de femmes qui apparaît en pourcentage dans les médias et où, en fait, elles ont réellement la parole qu'à 23 ou 25%, donc il y a aussi toute une part à 37%, pardon, donc il y a toute une part aussi d'affichage plante verte, et toutes ces représentations, elles jouent aussi dans la facilitation que permet le numérique aussi pour décrédibiliser les femmes, les jeunes filles.
Oui, Ségolène Chauchier.
Oui, merci. Je voulais aussi faire valoir que il n'y a pas que les élèves dans ces microcosmes scolaires, comme je disais, qui sont semi-fermés finalement, et dans lesquels les élèves passent beaucoup de temps. Il y a aussi des adultes avec toutes sortes de fonctions, et que dans ce bain de genre, les adultes n'ont pas, portent une part également assez importante, puisque les élèves nous rapportent qu'ils ont entendu les adultes. Alors, ce ne sont pas que les enseignants, c'est tout type de personnes ayant des fonctions dans un établissement scolaire. Mais en tout cas, des choses sexistes et déplacées, ils sont 19,4% à nous le rapporter. Des choses homophobes, 16,2%. Des choses transphobes. Et puis, des choses déplacées sur la sexualité, ils sont presque 10% à nous le rapporter. Donc, c'est vraiment cette idée qu'il y a un bain. Et que ce bain, quand les enfants sont petits et jusqu'à l'âge adulte, comme sans doute vient de décrire Laura, ça fonctionne et ce mécanisme ne fait que se renforcer. Finalement.
Et alors, est-ce que c'est ce bain avec cette image qu'on peut suivre, qu'on retrouve aussi quand on entend, quand on lit que ces violences numériques finalement sont le continuum des violences opérées dans la vie réelle, que c'est en tout cas comme tel que les victimes le perçoivent? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve derrière cette idée? Comment parce qu'on le lit, on l'entend pour comme une raison, comme une explication, mais qui n'est pas beaucoup précisée, en quoi il y aurait un continuum entre cette vie réelle et cette vie numérique? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Alors, ma question s'adresse à vous deux, parce qu'on a une des frontières qui se brouillent, que le numérique brouille entre le réel et l'irréel, mais est-ce que, du point de vue des violences, c'est un constat que vous partagez? Alors, dans quelle mesure vous voulez prendre la parole en premier? Laura, peut-être à distance, est-ce que vous voulez réagir?
Oui, effectivement, c'est un point névralgique de faire reconnaître qu'il y a un continuum entre les violences qui peuvent se passer dans la vie physique et les violences qui peuvent se passer dans la vie numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une des grandes limites et des freins aussi de la lutte contre les cyberviolences de manière générale. C'est notamment le fossé générationnel qui fait que les personnes plus adultes qui n'ont pas forcément grandi avec le numérique vont avoir tendance à se dire « bon, on éteint le téléphone et c'est fini ». Tout ce discours aussi de « en fait, c'est que via le numérique, c'est pas des insultes que tu te prends en pleine face ». Et donc, cette minimisation aussi des cyberviolences qui est hautement liée à l'âge aussi, aux générations finalement, c'est nécessaire de bien démontrer ce continuum, que en fait c'est des vraies violences, parce qu'à partir du moment où ça a des conséquences sur les personnes qui les subissent, même si c'est que de l'ordre psychologique, etc., et pas forcément physique, en fait c'est des vraies conséquences, donc les violences en ligne sont de vraies violences. Et donc ça, c'est extrêmement important à prôner aussi, parce qu'effectivement, violence physique et violence numérique se croisent aussi. En fait, on peut utiliser le numérique pour commettre des violences physiques, donc par exemple avec la géolocalisation. Ça peut être dans le sens inverse. Donc, je vais filmer une agression qui est en train de se faire et la diffuser ensuite, et donc il va y avoir une surviolence. Et en fait, c'est tous ces croisements aussi Si on prend le harcèlement scolaire, ben en fait, derrière, ça continue en cyberharcèlement. Et en fait, on ne peut pas dissocier les deux et on ne peut pas dire je vais que considérer l'aspect harcèlement scolaire physique. Et tout comme dans la question des violences conjugales, il y a tout un pan qui est assez délaissé et qui pourtant est très présent dans les cas de violences conjugales, avec justement des cyber-violences conjugales qui sont toutes les formes aussi de contrôle, de surveillance et de surviolence qui peuvent subvenir même après la rupture. Dans ce cadre-là, qui font intrinsèquement partie en fait de la situation de violence, de harcèlement que les personnes subissent, quoi.
Effectivement, la prise en compte par l'entourage notamment et les répercussions sur l'entourage, ça fait certainement partie des points qu'on réabordera peut-être en fin d'émission sur l'aspect lutte contre le phénomène et sensibilisation, parce qu'il est vrai que le rôle de l'entourage à cet égard est particulièrement important. Peut-être, Ségolène Kouchochek, sur cet aspect lié au continuum des violences.
Effectivement, dans les études que j'ai pu mener, il y a vraiment une cohérence entre le taux de victimation adressé aux filles et aux garçons sur ces victimations à caractère sexiste et homophobe, et puis quand elles deviennent plus sévères, c'est-à-dire quand l'élève nous rapporte avoir été insulté plus de 4 fois et plus en 45 jours avec les mêmes types d'insultes. Vous voyez, ça fait plus d'une fois par mois, c'est quand même assez énorme. On a davantage de prévalence ensuite sur les réseaux sociaux que qu'il y ait des insultes qui se poursuivent, et on a des élèves qui vont avoir une expérience victimaire qui va devenir vraiment sévère, au sens où ils vont être insultés avec des insultes sexistes, avec des insultes homophobes, en face à face, en présentiel, on va se moquer d'eux, etc. Et puis encore, ça va continuer sur les réseaux sociaux avec différents types d'insultes, différents types d'actes, et au final, ils finissent par dire « au secours, que fait-on ?» Donc là, on peut interpeller également les adultes. Tout ça pour dire qu'il y a une très grande cohérence entre ce qui se passe en coprésence entre les élèves et ce qui va se poursuivre ensuite sur les réseaux sociaux ou par les plateformes de jeux vidéo, etc., etc.
Alors, les réseaux sociaux, justement, je rebondis sur le terme que vous utilisez et pour m'adresser toujours à vous. Cet environnement numérique, on en parle beaucoup dans le cadre des temps électriques avec ces différentes facettes. Dans le cadre de cette émission, on a l'impression qu'on est face quand même à un univers qui catalyse d'une certaine façon ce risque de violence. À quel point et à quel égard, sur quels exemples précis, vous centreriez l'attention en fait sur cet élément catalyseur?
Alors chez les jeunes, le catalyseur, c'est vraiment augmenter sa popularité. Et ça va être vraiment permis par ces dispositifs, notamment que sont les réseaux sociaux ou d'autres manières de pouvoir se mettre en valeur en public, sur Internet ou sur l'Internet, pour augmenter son capital social symbolique. Donc, c'est-à-dire montrer qu'on est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, donc augmenter sa visibilité, être populaire, avoir beaucoup de likes, avoir beaucoup de retours sur ses posts, et puis avoir du prestige auprès des pairs. Et là, souvent, dans ces âges entre 9 et 15 ans, c'est la maturité sexuelle. Donc, notamment la maturité hétérosexuelle, bien évidemment. Et donc, on va avoir toute une façon de procéder qui va amener les jeunes à se mettre en scène. Alors, ce n'est pas très original, hein. Alors, quand on est doté d'un téléphone portable, d'un smartphone, alors, je vous donne quand même quelques chiffres, hein, oui, pour qu'on sache de quoi on parle précisément. Il y a 81% des élèves du collège, ma dernière enquête, qui sont équipés d'un smartphone. Et pour les élèves de l'école, 45%.
Donc là, on est presque pour deux. Jusqu'à 10 ans.
Jusqu'à 11 ans. 11 ans. Voilà. Donc les CM1, CM2, hein, sur CM1, CM2, ils sont déjà presque moitié à être dotés d'un téléphone portable qu'ils utilisent à discrétion, puisqu'ils nous disent que la moitié des parents les laissent faire en toute impunité. Donc ça donne quand même une possibilité d'accès à quelque chose. Alors je ne veux pas diaboliser les réseaux sociaux. Il y a une grande créativité, hein, qui est permise par le numérique, évidemment. Mais il y a aussi cette position que l'on va pouvoir faire des choses. Ensuite, sur les usages des réseaux sociaux, ils utilisent beaucoup de types de réseaux sociaux, des réseaux sociaux différents pour y faire des choses différentes. Et là, on peut mesurer un petit peu le nombre d'amis, les followers. Alors, 50% nous disent qu'ils ont moins de 100 amis, ce qui est relativement correspond à l'entourage proche, les amis d'amis, etc., mais que l'on peut connaître vraiment. Mais quand même, entre 15% au collège et 23% à l'école ont plus de 1000 amis. Et donc là, vous voyez tout de suite la dérive que peuvent proposer ces dispositifs sociotechniques. Alors donc, comment est-ce qu'ils utilisent ces réseaux sociaux, ces téléphones portables? Et bien d'abord, ils vont les utiliser dans certaines dimensions qui vont porter en elles-mêmes un potentiel de dangerosité. Par exemple, ils sont 23% à l'école, surtout des garçons et aussi des filles, à recevoir des gains liés à leur activité, leur propre activité numérique, que ce soit des gains, des récompenses, comme quand j'ai remporté un défi, mais ça peut être des choses, des gains de manière pécuniaire également, qu'ils nous rapportent. Et puis, ça va encourager la valorisation de soi, l'exposition de soi, jusqu'à une certaine forme de prise de risque. Vous parliez tout à l'heure des nudes dans la série. Bien sûr, plus je vais me mettre en scène d'une manière osée, plus des gens vont pouvoir potentiellement venir regarder et commenter. Donc ces renforcements positifs entrent en conjonction avec la popularité, cette course à la popularité. Et 39% des élèves des écoles déclarent que la popularité, eh bien c'est important. Et pour conserver cette popularité, voire l'augmenter, ils n'hésitent pas à truquer la valorisation. Par exemple, en utilisant, en se faisant passer quelqu'un d'autre pour commenter leurs propres exploits ou leurs propres mises en scène, en faisant ce qu'on appelle un e-marchandage avec d'autres élèves pour que les autres élèves likent ou commentent ou rediffusent les mises en scène. Et donc, ces pratiques, elles sont effectives dans tous les niveaux de classe, y compris à l'école, chez les 9 ans. Et donc, bien évidemment, avec un faible contrôle des conséquences, mais toujours cette appétence à augmenter cette valorisation de soi.
Alors, la question, effectivement, de l'image de soi, alors là, dans la façon dont vous l'abordiez, dans la valorisation de l'image de soi, on peut justement la réaborder sous l'angle qui était celui présenté tout à l'heure avec la question inverse, en fait, de l'atteinte à cette image. Laura, peut-être, pouvez-vous reprendre l'exemple que vous aviez cité sans le nommer, la question du revenge porn? Je ne sais plus si le nom avait été donné, parce que vous avez particulièrement travaillé, je crois, sur ces phénomènes où là, pour le coup, l'image de soi est utilisée d'une autre façon.
Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on appelle du terme démocratisé revenge porn, qui par ailleurs est un terme très controversé qu'on n'utilise plus, puisqu'il y a cette idée de vengeance, donc que la personne ait fait quelque chose et qu'on doive se venger d'elle. Et porn, notamment quand on parle de contenu de personnes mineures, donc intimes à caractère sexuel, le fait qu'on appelle ça porn, donc à caractère pornographique, c'est assez problématique. Donc, au lieu de parler de revenge porn, on va plutôt parler de diffusion de contenu intime à caractère sexuel sans consentement. Et donc, effectivement, c'est des contenus qu'on peut envoyer dans le cadre de sa cybersexualité, donc de la sexualité en ligne. Et c'est des nouvelles pratiques sexuelles très générationnelles aussi, donc plus des générations qui là, ont grandi et grandissent actuellement avec les outils numériques. Et donc, sur cette question, déjà, il y a la question de la culpabilité et puis de cette inversion de la culpabilité où, en fait, on va mettre, on va rendre coupables les personnes qui font des nudes et dont leurs nudes sont affichées, alors même que sur la question des montages pornographiques, pour le coup, à caractère sexuel aussi, en fait, toute personne, même qui n'aurait jamais fait de photos intimes de sa vie peut être affichée. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on prône aussi cette idée que c'est la liberté sexuelle d'envoyer des nudes, qu'il n'y a pas à blâmer, à culpabiliser les personnes qui en feraient dans un cadre consenti, bien sûr, parce qu'il y a aussi des contenus qui s'échangent et qui sont envoyés sous la pression, sous le chantage. Et ça, bien sûr, c'est tout autre chose. Et qu'en tout cas, quand les contenus sont diffusés, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de pour les corps sexisés de jeunes femmes, jeunes filles, on va retrouver vraiment ce lynchage public et aussi l'idée qu'on peut faire du lien encore avec la vie physique. Donc, tout comme on dénonce le genre de discours disant « elle avait qu'à pas être habillée comme ça, elle se serait pas fait agresser » ou « elle avait qu'à pas aller à cette soirée, elle aurait pas subi ces agressions ou viols de la part de machin ». Et en fait, là, c'est la même chose pour le numérique où, en fait, on ne peut pas dire « elle avait qu'à pas faire de nude parce que maintenant, c'est notre droit de lui faire son procès en ligne ». Il y a aussi tout cet aspect non culpabilisateur qui est très, très important à rappeler à l'antenne aujourd'hui aussi. Et sur ces questions de diffusion de contenu intime, les fondements, ils en reviennent au sexisme, aux autres différents types de discrimination aussi qui viennent nourrir ça et au lynchage sur la place publique, tout comme on pouvait aussi dans la vie physique d'un coup s'en prendre à une personne en groupe et la lyncher. Donc en fait c'est vraiment aussi dans l'idée du continuum où ça prend d'autres formes en ligne et où il y a du coup les mécanismes des cyberviolences spécifiques qui viennent amplifier d'une certaine manière, donc par l'aspect où on peut avoir une forme d'anonymat basique, on peut aussi avoir l'aspect intemporel où effectivement c'est pas du tout que c'est moins grave, mais le fait de subir du harcèlement ou des discriminations dans la journée, au travail ou à l'école, au moins en rentrant chez soi, on pouvait peut-être au moins souffler un peu, alors que là, l'idée, c'est que c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Les cyberviolences ne prennent pas de vacances, pas de jours fériés. Enfin, il y a un peu cette idée que c'est constant. Donc, le sentiment d'hypervigilance, il se maximise aussi. Et donc, cette idée aussi que des choses qui peuvent rester parfois, des violences ou des harcèlements qui peuvent rester parfois à des échelles de quelques personnes, du jour au lendemain, toute la France peut être au courant et bien plus encore, parce que les cyberviolences n'ont pas de frontières non plus. Donc, il y a tous ces éléments-là aussi à prendre en compte, notamment s'agissant de la lutte, où en fait, on ne peut pas se permettre que de penser en termes national, de frontières françaises. Donc, il faut aussi penser internationalisation des dispositifs de lutte, de suppression des contenus, etc. Et donc, prendre en compte ces mécanismes-là, le fait de ne pas culpabiliser les victimes, puisque tout le monde peut en être victime finalement avec les intelligences artificielles d'aujourd'hui.
Sur ce point, on y vient et on vient aussi sur la question de la lutte. On va venir sur la question de l'intelligence artificielle, mais juste avant, pour terminer sur le terme, j'en conviens, maladroit, mais en tout cas, c'est pas le terme juridique rigoureusement applicable, cette idée du revenge porn qui trouve effectivement une qualification pénale spécifique, parce que ça reste une infraction pour le coup spécifiquement conçue pour réprimer ce comportement. Vous le rappelez, vous avez raison, c'est déjà pas dédié à la question du mineur, c'est une infraction qui touche le mineur et le non-mineur, et c'est une photo qui est prise avec consentement. L'idée du consentement, elle est primordiale, et je renvoie les auditeurs à l'émission précédente où on a parlé de la notion du consentement. Mais c'est une photo qui est soit effectivement envoyée par cette personne qui en sera victime ensuite, ou qui est prise par la personne qui la divulguera, alors que la victime était à l'époque consentante. Enfin, il n'y avait pas de difficulté sur le consentement au moment de la prise de la photo. Je crois que c'est ça qui est important dans cette infraction. Est-ce que Ségolène Kouchochek voulait réagir sur cette infraction-là, ou plutôt sur la question qui vient d'intelligence artificielle
sur le... Peut-être plutôt sur la question du consentement, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet, je dirais. Mmh. Les jeunes comme les adultes, encore plus quand ils sont dans l'enfance, utilisent les captures, la capture visuelle comme un moyen de communication ordinaire qui s'est énormément renforcé par rapport au textuel. Et donc, ils sont munis de ces téléphones et ils vont tout photographier, le petit chien qui est mignon, ce qui se passe dans son assiette, etc. Et donc, leur corps et le corps d'autrui, sans nécessairement avoir dans l'idée que le corps d'autrui, quand il est capturé, ça pose un problème de droit. Et ça, c'est très difficile d'aider les jeunes à faire la part des choses. Donc, on a vraiment besoin de les aider à identifier. Alors, quand même, sur les captures d'images dénudées qui sont faites sous la pression, moi, j'ai quand même des statistiques qui sont... alors, ça reste faible, heureusement, mais quand même, 3% rapportent cette capture sous la pression au collège et 2% à l'école. Mmh. Donc on a quand même déjà une mise sous pression de se photographier des parties intimes ou des parties dénudées. Et vous avez, alors à l'inverse du nude de la jeune fille, il suffit que la jeune fille prenne une pose un petit peu sexualisante ou essaye de se mettre en valeur, etc., pour qu'elle subisse des insultes et puis qu'on imagine la suite. Mais un garçon va devoir, dans ce processus de socialisation hétérosexuelle, démontrer qu'il est un garçon et donc envoyer des photos de pénis. Donc la question des dick pics, elle est extrêmement aussi jouée par les jeunes, notamment chez les plus jeunes, mais encore plus tard aussi au collège, énormément. Et puis, cette capture d'images dénudées sans consentement, moi j'ai des statistiques qui sont plus élevées à l'école qu'au collège. Donc, ce qui va dans le sens de je capture un petit peu tout, et puis finalement, je trouve ça très rigolo, et puis après, on en rigole, etc.
Sans en mesurer la conséquence.
Sans en mesurer du tout la conséquence, et sans même être en mesure de pouvoir se dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire définir.
Alors, la question de l'intelligence artificielle sur laquelle, Laura, vous nous conduisiez, renvoie à une autre actualité récente qui a montré les conséquences des deepfakes. On en parlait également il y a quelques semaines dans les temps électriques. Les algorithmes et les outils liés à l'IA, effectivement, sont potentiellement en mesure de diffuser, de renforcer ces stéréotypes sexistes néfastes. Alors, comment on se prépare à la gestion de ces phénomènes? C'est peut-être déjà une question. Et puis, quels moyens juridiques on a pour lutter contre? Est-ce que Laura, vous voulez reprendre la main sur cette question que vous aviez commencé à aborder?
Oui, donc en effet, la question des deepfakes, elle est très prégnante parce qu'en fait, ça aurait pu être un outil simplement pour faire des petites blagues sans conséquence. Et en fait, très vite, tous les outils numériques finalement, hein, parce que même le fait d'avoir les réseaux sociaux depuis toute petite, moi-même, je gère pas du tout tous mes paramètres. Et c'est ça aussi pour toutes les générations qui sont nées avec un téléphone dans les mains, c'est qu'on pense gérer ces outils. Et en fait, on ne les maîtrise pas jusqu'au bout et on ne se rend pas compte de toutes les conséquences que ça peut avoir aussi en termes de données. Et donc, la question du deepfake...
Peut-être qu'on peut juste redéfinir ou réillustrer pour des auditeurs qui n'auraient pas forcément l'exemple concret avec le terme, à quoi ça renvoie, même si on en a parlé très récemment dans l'actualité.
Oui, donc effectivement, les deepfakes qui peuvent toucher tout le monde, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va découper votre tête et on va la coller sur un corps nu ou même ça peut être en format vidéo aussi, ou du coup... ça crée littéralement un contenu de vous à caractère sexuel.
Donc on se sert d'une photo qu'on a par ailleurs, qu'on obtient, une photo réelle, une photo ressemblante, qu'on accole sur un montage en fait.
C'est ça, donc ça peut être n'importe quelle photo de CV, de, je sais pas, LinkedIn, Facebook, TikTok, qu'importe. Et juste en ayant repris les traits d'un visage, en fait, on va en faire ce qu'on veut, quoi. On le modèle, on fait une pâte à modeler très réaliste, parce que des fois, on peut se dire, un montage là comme ça, ça se voit. Et pas forcément du tout. Et justement, le fait que les intelligences artificielles, elles se soient beaucoup développées et optimisées, en fait, maintenant, ça devient très compliqué de faire la différence aussi entre un vrai contenu, un faux contenu, un contenu monté ou réel. Et donc cette idée aussi que maintenant on va plus forcément se prendre la tête à essayer de voler la sextape de telle star ou d'essayer de la pirater ou de lui voler sa tablette comme il y a eu beaucoup aussi ce genre de cas où on récupère des contenus d'une manière ou d'une autre. En fait, là, on n'a plus besoin de ça. On a juste besoin de trouver une photo de la tête de la personne et on en fait absolument ce qu'on veut. Donc c'est en ça que ça peut aussi toucher tout le monde, mais on voit bien que même si ça peut toucher tout le monde, les personnes qui sont les plus touchées, ça va être très majoritairement des femmes, des jeunes filles, quoi.
Et alors quels moyens techniques on a pour lutter contre ça? Comment on réagit au plan technique, juridique? Est-ce que vous pourriez donner quelques grilles de lecture, en fait, justement, à ces jeunes filles qui sont concernées par le phénomène?
En effet, on va reprendre, finalement, le trajet aussi de diffusion de contenu sans consentement, même s'il y a la subtilité du montage du deepfake, où en fait, l'important, c'est de canaliser le cyberharcèlement qui est en train de se faire. Et c'est en ça aussi que les démarches juridiques sont importantes, selon aussi la volonté des personnes victimes, mais qu'en fait, les démarches juridiques, elles n'ont pas forcément un impact concret sur ce qui se passe en ligne, parce que, en fait, le numérique, ce sont que des entreprises privées qui font du chiffre sur l'activité des personnes, et que donc, quand il y a des cas de cyberharcèlement et par exemple, une diffusion de deepfake ou de nude, ça va générer de l'activité qui fait de l'argent au réseau social. Donc, le réseau social, il n'est pas là pour qu'on se sente bien et pour le mettre face à sa responsabilité. C'est-à-dire que là, si tout de suite vous diffusez un nude, un deepfake, le réseau social n'est pas responsable. Par contre, il devient responsable à partir du moment où une personne, minimum, a signalé le contenu comme étant problématique. Là, ça met le réseau social en responsabilité de la situation. Donc, dans un premier temps, c'est essentiel dans tout cas de cyberviolence de signaler au moins une fois sur la plateforme, quitte à faire signaler plusieurs fois par ses amis, etc., éventuellement. Et ensuite, il faut savoir que signaler via les réseaux sociaux, c'est très courant. Donc, il y a énormément de gens qui le font. Donc, les signalements sont pas forcément très bien traités, parfois traités par des robots, des bots de modération, et des personnes modératrices, mais qui vont pas forcément comprendre les codes aussi. À nouveau, c'est beaucoup des choses générationnelles, où en fait, on va utiliser des codes ou des mots à l'envers ou des mots un peu chiffrés ou avec des émojis, des symboles, pour en fait passer sous le radar de la modération. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut passer par des structures qui ont des partenariats, dits tiers de confiance avec les réseaux sociaux, où l'idée, c'est qu'au lieu que le signalement il aille un peu dans un énorme sac avec plein de milliers de signalements de passer par des structures qui ont des partenariats, résumons ça en mode signalement VIP, ça permet de maximiser les chances de faire supprimer les contenus le plus vite possible et partout de différentes plateformes. Donc ces structures-là, ça va être par exemple e-enfance qui a un certain nombre de partenariats, ça peut être aussi Point de Contact, Stop Phisha, notre association, on a aussi ce genre de partenariat pour maximiser les chances que le signalement aboutisse vite. Et ce que je disais par rapport aux démarches juridiques, c'est qu'en fait tout ça, tout ce dont je vous parle de signalement rapide, ça peut se faire en une journée, alors que les démarches juridiques, tout le temps que ça va prendre d'arriver à un rendu, une décision d'un ou une juge, ça va prendre des mois voire des années. Et il faut savoir que parfois il y a même des jugements rendus qui par exemple demandent à Booba de faire fermer son compte Twitter et que Twitter n'exécute pas cette décision de justice. Donc en fait, les démarches juridiques, c'est quelque chose qui vient en plus pour avoir une réparation autre, mais dans l'action concrète de canaliser le cyberharcèlement et faire en sorte que la cyberviolence cesse, c'est pas le meilleur chemin à prendre, en tout cas à faire de manière seule et ne rien faire à côté et juste porter une plainte, quoi.
Ah, d'accord, comme vous l'exprimez, c'est ce double temps. Il y a la question d'endiguer la violence et après la sanctionner, la réprimer. Alors si on vient à cette question de la réponse juridique, qui on l'entend est peut-être à parfaire dans votre développement, on a donc un certain nombre d'infractions, on l'a vu, qui sont soit créées de toutes pièces pour prendre la mesure de nouveaux phénomènes, d'autres qui se sont ajustées. On a des alinéas nouveaux qui ont pris place dans le code pénal, notamment au sein de violences qui étaient non numériques. Hein. Je pense au harcèlement, on a la question du cyberharcèlement qui a trouvé une place spécifique. Dans cet arsenal, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus finalement pour avoir une reconnaissance plus affirmée? Question que j'adresse pareillement à vous deux, peut-être selon les publics que vous avez eu à observer, Ségolène Couchot-Chiex, est-ce que sur la question par exemple de la lutte contre ces phénomènes touchant les jeunes filles, est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de réponses précises à porter ou est-ce que d'autres mécanismes pourraient trouver à s'intégrer ?
Donc c'est clairement encore insuffisant, notamment dans ce que nous rapportent les jeunes filles, hein, c'est ce manque d'écoute et peut-être de reconnaissance des faits qui sont avérés. Alors Laura en a un petit peu parlé, une jeune fille qui va pouvoir aller rapporter quelque chose aux adultes, ça demande énormément de courage. Et les jeunes nous disent que c'est très difficile finalement de demander recours à un adulte, d'aller contacter un adulte pour lui expliquer quelque chose. Alors, on va d'abord, ils et elles vont plutôt s'adresser à leur ami. Donc, recourir à un adulte ne va pas de soi. Du côté des adultes, accueillir la parole d'un jeune sur ces sujets de victimisation à caractère sexiste et sexuel ne va pas de soi non plus. Donc, il y a vraiment un besoin de formation des personnels, un besoin de formation de l'ensemble des adultes, parce que là, on est sur un sujet d'ampleur sociétale et non pas seulement que sur quelques individus. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les jeunes à pouvoir raconter ce qui se passe dans leur vie, notamment quand ils sont victimes de ces faits de violences sexistes et sexuelles qui passent par les réseaux sociaux. Ça fait un double écran, finalement, pour reprendre cette image de l'écran. L'écran lui-même, l'écran du téléphone, de l'Internet, etc., des mondes numériques. Et puis l'écran du genre, parce que là, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué à identifier et à pointer les mécanismes. Ce qui fait que, par exemple, ce sont encore les jeunes filles qui sont victimes quand elles sont dans l'espace scolaire, parce qu'elles vont rencontrer leur agresseur qui reste dans la classe et que quelquefois quand elles veulent vraiment avoir la paix, ben, ce sont elles qui vont partir. Donc il y a une double victimisation de ces jeunes filles alors que ça leur fait porter beaucoup de poids sur elles-mêmes.
Et donc dans les solutions à envisager pour faciliter cette prise de parole dans cet espace scolaire par rapport à ce que vous observez, à ce qui a pu se mettre en place, je ne sais pas si toutes les écoles que vous avez vues ont pu mettre en place les mêmes dispositifs, est-ce que certaines choses seraient plus adaptées que d'autres ou
Alors pour l'instant on tâtonne énormément, c'est très difficile et d'ailleurs il y a une espèce de frilosité pour pouvoir aller dans ce sens, pour accueillir la parole d'une jeune sur son expérience des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. On n'ose pas, vous savez, la sexualité, c'est quand même un tabou encore dans l'école, hein, trop souvent, même si on commence à parler des violences sexistes et sexuelles et de ce qu'il faut faire, justement, en matière de prévention. Il faut avancer à petits pas. Et surtout, il faut vraiment que cette formation, elle puisse advenir dans un lieu. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, ce lieu, c'est l'école. Hein, c'est un lieu semi-fermé dans lequel vont se rencontrer des adultes et des jeunes. Et donc, ce qui se passe dans ce lieu est très important. Et évidemment, en termes de partenariat, il faut inclure les familles, il faut inclure aussi les partenaires de l'éducation de proximité, comme dans les clubs sportifs, etc. Parce qu'un jeune, lui, dans sa journée, il va traverser ces différents espaces. Et donc, il a besoin de pouvoir être supporté, accompagné dans ces différents espaces et que ces différents espaces portent en eux-mêmes une cohérence par rapport à cette prévention des violences et des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel.
Laura, est-ce que dans le cadre de l'association donc Stop Ficha pour laquelle vous travaillez, vous avez des outils associatifs que vous mettez en place? Vous avez évoqué la question donc, du signalement de ces violences et de l'endiguement du phénomène. Peut-être d'autres outils dont vous voudriez parler ou ne serait-ce qu'une mise en perspective avec les attentes aussi que les femmes qui vous sollicitent ont. Qu'est-ce qu'on retrouve au plan associatif sur cette lutte envers ces violences?
Nous, au niveau de l'association, ce qu'on propose, c'est donc sur l'aspect signalement, suppression de contenu, on a un formulaire de signalement spécial, donc pour que le pôle signalement suppression s'en charge. Et ce formulaire, on le retrouve donc sur notre site stopficha.org, sur nos réseaux sociaux aussi, en bio, Insta, TikTok et Twitter. Et donc ça, c'est pour l'aspect vraiment purement action directe d'aide à la suppression de contenu. On propose également donc un accompagnement à la fois moral, à la fois psychologique par une spécialiste et juridique par une équipe de juristes et avocates qui se spécialisent aussi sur ces questions de violences genrées et en ligne. Donc tout ça, c'est ce qu'on propose aux personnes victimes et témoins. On a aussi tout un pan donc, de sensibilisation où effectivement, ce qui se disait juste avant sur la question d'essayer d'ouvrir le dialogue et d'essayer aussi que les adultes réussissent à mieux prendre en charge ces violences-là. Effectivement, nous, on mène un certain nombre d'actions de sensibilisation. Alors, pas forcément justement que au public scolaire, donc on en fait beaucoup, mais on s'attarde aussi à faire des formations aux parents d'élèves, donc notamment dans des établissements où on vient pour les classes la journée et puis pour les parents le soir, pour essayer justement de briser ce fossé générationnel sur le tabou de la sexualité et aussi des cyberviolences de manière générale, puisque les usages sont très différents au niveau entre parents et enfants, quoi. Et également par rapport donc aux professionnels de maisons de quartier, on a déjà fait aussi des personnels de rectorat. On est en lien aussi avec les personnes liées au programme phare, donc par rapport au harcèlement scolaire. Et donc on lutte aussi pour un peu tous les enjeux que j'ai pu citer, pour en tout cas faire reconnaître bien sûr le cyberharcèlement et les cyberviolences à mesure de ce qu'elles provoquent aussi en termes de conséquences. Et alors dans ce qui existe associativement parlant, les études sur les cyberviolences, pour moi-même être en master et faire un deuxième mémoire là sur les cyberviolences, on manque encore de beaucoup de données scientifiques de manière générale sur ces cyberviolences genrées. Et c'est vrai que les savoirs militants sont aussi à prendre en compte dans ces enjeux-là, et d'aller creuser aussi sur des choses très spécifiques, parce que chaque cyberviolence a aussi, même chaque situation finalement de cyberviolence forme l'addition parfois de plusieurs cyberviolences en une situation, et c'est vrai que qu'il faut continuer à aller creuser dans ces enjeux-là. Et donc en termes d'outils, et d'autres associations, donc nous il y a Stop Ficha, mais il y a également l'association féministe VS Cyberharcèlement qui est plus portée aussi sur la sensibilisation et la recherche sur les cyberviolences à caractère discriminatoire, et il y a un certain nombre de ressources par ailleurs sur le centre Hubertine Auclert, donc notamment sur les cyberviolences conjugales que je citais tout à l'heure. Et donc il y a de plus en plus aussi d'outils qui se mettent en place, donc Stop NCAI, Pharos, la police du numérique, je citais également
e-enfance. Pharos, oui, en tant que plateforme de signalement, pour le coup, là,
c'est ça. Pharos, plateforme, c'est la police du numérique, donc qui est habilitée à entamer des enquêtes sur ce qu'on leur signale. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'avoir en tête quelques outils comme ça, parce que dans une situation de cyberviolence, n'utiliser qu'un billet de signalement par exemple, autant en utiliser plusieurs, donc autant envoyer le signalement à Point de Contact, Pharos, e-enfance, Stop Ficha, la plateforme en question, et ça maximise énormément l'efficacité. Et puis après, sur l'aspect accompagnement, nous on en fait une partie, il y a d'autres associations comme les CIDFF et autres structures aussi qui ont des dispositifs d'accompagnement de chat en ligne aussi, l'asso en avant toute, et le planning familial également, qui ont des chats en ligne sur les relations affectives, relationnelles, sexuelles, sur les questions de consentement aussi, et qui ont intégré progressivement là les questions de violence en ligne.
Ouais, donc multiplier les actions en un très rapidement peut-être Ségolène Chauchex pour réagir.
Oui, vraiment, vraiment très rapidement, parce que je trouve très intéressant ce que vient de dire Laura. Simplement, les jeunes, encore une fois, quand ils sont pris dans la situation, quand il se passe quelque chose, ils sont quand même 6% à nous dire « je n'ai pas su comment faire pour arrêter les choses ». Donc, il y a aussi à trouver comment on éteint. Comment il suffirait d'appuyer, ouais. Voilà, comment on est, Nandigue, comment est-ce qu'on pourrait avoir un simple bouton que tout le monde pourrait repérer très facilement pour dire là, stop.
Oui, donc quand même, en termes d'information de ces moyens qui, on le comprend, sont quand même multiples, mais fonctionnent mieux quand ils sont tous actionnés finalement en même temps qu'en amont et en aval. Merci à toutes deux d'avoir contribué du coup à cet échange et à la sensibilisation juridique, sociale à cette question.
Merci.
Merci à vous.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
La grenade de Clara Luciani, pour finir avec force cet échange, en ayant contribué, on l'espère, aussi à cette lutte envers les violences numériques faites aux femmes. C'est sur un sujet d'actualité que je vous propose pour terminer de réagir, Ségolène Chauchex, Laura Pereira-Diogo, en vous soumettant cette lecture issue d'un article paru le 12 décembre dernier dans le journal Ouest France.
Une joueuse sur cinq de la Coupe du Monde féminine de football en Australie et en Nouvelle-Zélande a fait l'objet de publications discriminatoires, insultantes ou menaçantes, a révélé lundi la FIFA dans un rapport analysant le service de modération sur les réseaux sociaux pendant la compétition. Par ailleurs, les commentaires à caractère homophobe, sexuel ou sexiste représentent près de 50% des insultes constatées, et les risques pour les joueuses d'être visées par des insultes en ligne étaient supérieurs de 29% à celles pour un joueur pendant le mondial au Qatar. Pour lutter contre ces abus, un ensemble d'outils de protection des médias sociaux, qui utilise l'intelligence artificielle, a caché près de 117 000 commentaires. Le service de protection des médias sociaux, SMPS, développé par l'instance mondiale avec le syndicat des joueurs FIFPro et lancé lors de la Coupe du Monde au Qatar, a été proposé aux équipes lors des phases finales féminines en Australie et en Nouvelle-Zélande, a indiqué la FIFA en juin. Cet outil surveille et modère les discours haineux sur les médias sociaux en cachant les contenus nuisibles aux joueurs et aux joueuses. En tout, 5,1 millions de publications dans 35 langues ont été examinées. 697 joueuses et entraîneurs, propriétaires de 2111 comptes sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, ont ainsi profité de la protection de ce service. Par ailleurs, 239 comptes actifs détenus par 29 arbitres et les 32 équipes participantes ont également profité de couverture, indique le communiqué. Il ne peut y avoir de place sur les médias sociaux pour ceux qui abusent ou menacent qui que ce soit dans les tournois de la FIFA ou ailleurs, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les abus qui persistent en ligne ont un impact sur les joueurs de football du monde entier et ne peuvent être ignorés, a ajouté le président de la FIFPro, David Agonzo. Cet environnement toxique en ligne est risqué pour les joueurs. Il affecte leur santé mentale et leur bien-être. Le football a la responsabilité de protéger les joueurs autour de leur espace de travail.
Ségolène Kouchouchiex, Laura Pereira-Diogo, alors on est à l'approche des JO dans quelques mois. Au vu de ce qu'on vient d'entendre, pensez-vous qu'on se prépare suffisamment au sujet des violences numériques à l'égard des femmes, spécialement dans le milieu sportif? Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous veut débuter, Laura à distance peut-être?
Oui, les femmes sportives dans le cadre des JO vont être bien plus touchées puisque c'est toujours empreint du sexisme, les catégories de violence et cyberviolence. Et en fait, est-ce qu'on est assez bien préparé? Non, puisque la modération par les robots n'est pas efficace, n'est pas précise et ne prend pas en compte les codes culturels, générationnels. Donc en fait, le manque, et c'est ça qu'il faudrait en termes de besoins, c'est d'investir dans les ressources humaines de la modération pour tout ce qui est traitement des cyberviolences et donc pourquoi pas avoir une équipe spécialisée pour le cadre des JO.
Ségolène Kouchouchiex, peut-être.
Oui, alors très clairement, on n'est pas du tout suffisamment prêt, mais les violences, elles sont déjà envers les sportives, elles sont déjà aussi sur les terrains et elles sont encore déployées par les réseaux sociaux numériques. Donc, c'est le sport, hein, c'est un sport que l'on dit masculin et les femmes en ont fait une lente conquête et on voit qu'elles sont toujours les cibles. Et il suffit d'avoir cette volonté d'humilier. Et comment humilier davantage les femmes sportives notamment que de les inonder de postes dégradants sur les réseaux sociaux. Donc non, on n'est pas du tout encore suffisamment préparé à cela.
Merci encore à vous deux pour cet échange. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Ségolène Kouchouchiex, professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Cergy-Paris, au sein du laboratoire École Mutation Apprentissage, et également Laura Pereira-Diogo, cofondatrice de l'association Stop Ficha et notamment co-autrice de l'ouvrage Combattre le sexisme. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.